Coucou vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast. C'est un truc de fou, on est déjà au quatrième. Et j'ai regardé les stats il y a 3 jours et vous êtes des fous, des malades. On est si nombreux ici, vraiment j'en reviens pas. Et ça motive vraiment à vous faire encore plus de podcasts et à vous enregistrer plein de trucs parce que j'ai une tonne d'idées. Genre j'ai fait une liste hier et j'ai une tonne de trucs à vous faire. Là je vous enregistre un podcast encore sur mon lit comme d'habitude, un peu involontairement parce que ma connexion wifi ne marche pas, les joies de Bali. Donc depuis ce matin je me bats avec mon ordinateur pour essayer d'éditer ma vidéo et trouver des musiques, mais j'ai pas internet donc c'est juste la misère. Mais bref, du coup je me suis dit on va pas perdre de temps, je vais me poser sur mon lit, on va discuter ensemble, ça va me faire du bien. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être s'installer au bout du monde quand on a 21 ans, ou enfin n'importe quel âge que vous avez en fait. Je sais pas pourquoi je dis 21 ans, mais je parle un peu dans mon cas parce que j'ai beaucoup beaucoup de questions sur Instagram, sur YouTube. Comment tu fais pour voyager aussi jeune? Comment tu gagnes de l'argent? Qu'est-ce que... Enfin voilà, toutes les questions récurrentes qui reviennent. Donc, j'ai encore rien organisé, comme d'habitude. À chaque fois, je me dis, je vais organiser, je vais faire une liste, je vais la suivre, mais à chaque fois, je le fais jamais. Donc, on va faire ça au freestyle, et puis peut-être que la prochaine fois, ce sera plus organisé. J'en sais rien, mais je vais commencer un peu par vous expliquer moi comment je fais, d'où viennent mes revenus, ouais, comment j'ai fait en fait pour arrêter mes études et m'installer à l'autre bout du monde à 21 ans. Ça fait un peu prétentieux la phrase que je viens de dire, mais vous allez vite voir qu'en fait, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de mon passé, de mon parcours scolaire, d'où j'ai arrêté mes études, je vais vous expliquer rapidement. Donc, évidemment, j'étais jusqu'à la fin de mon lycée, donc j'ai eu mon bac, j'ai redoublé mon année de première à cause de mes troubles alimentaires, etc. Enfin bref, du coup, j'ai redoublé mon année de première j'ai passé mon bac que j'ai eu. Donc j'ai eu un bac L que j'ai eu sans mention d'ailleurs parce que j'ai jamais été une excellente élève. Enfin, j'étais pas un cancre, mais j'ai jamais été vraiment à fond dans les études. J'étais pas la meuf qui faisait ses devoirs. J'étais pas insolente du tout avec les profs. J'étais plutôt discrète, enfin en tout cas au lycée. Et j'étais juste pas dedans. Donc j'ai passé mon bac dans le rush total. Genre j'avais aucun cours. J'ai passé une semaine à réviser non-stop, à aller chercher les fiches de révision chez les potes, enfin bref. Mais j'ai eu mon bac et ensuite après ça j'ai voulu m'installer à Montpellier et commencer des études en diète parce que j'étais passionnée par la nutrition, etc. Et c'était pas forcément une super bonne idée, sachant que j'ai eu un bac L et que bah, quand on veut devenir diététicien, on doit faire de la biochimie, de la physique, enfin en tout cas tout ce que je sais pas en littéraire. Mais je me suis dit, je vais tenter le tout pour le tout, je vais tout donner, je vais bosser, je vais changer, je vais m'organiser. Ce que j'ai fait pendant quelques mois, puis ma réelle nature est vite revenue au galop. Et j'avais aussi énormément de difficultés en biochimie. Enfin, donc de 1, c'était pas glorieux. J'avais beau travailler, je galérais vraiment. Et de 2, je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément quelque chose qui me convenait. Enfin, je me voyais pas ouvrir un cabinet de diététique, je me voyais pas travailler en hôpitaux, je me voyais pas me mettre à mon compte et faire des programmes alimentaires aux gens. Enfin, oui, j'étais passionnée par la nutrition, mais je pense que j'étais plus passionnée pour moi et pour moi m'enrichir. Et juste, je pense qu'il y a une grosse différence entre être intéressée et passionnée par la nutrition pour soi-même et vouloir l'enseigner aux autres et vouloir ben, juste s'occuper de patients, etc. Et je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Donc vu que mon école était privée, qu'elle était sur Montpellier, que je dépensais beaucoup d'argent, que j'avais un loyer à payer, que mes parents m'aidaient beaucoup, j'ai décidé que ça servait à rien que je continue à dépenser de l'argent dans l'école en sachant que j'allais peut-être pas avoir mon diplôme à la fin. Donc j'ai décidé d'arrêter, mais entre-temps j'avais déjà commencé ma chaîne YouTube sans forcément d'ambition. Enfin j'ai commencé vraiment comme ça en parlant de mes troubles alimentaires, etc. J'ai commencé aussi à poster plus régulièrement sur Instagram. J'avais pas forcément d'ambition particulière. Oui, j'avais envie que ça marche comme toutes les personnes qui débutent sur YouTube, on va pas se mentir, hein. Mais j'avais pas forcément d'ambition d'en faire mon travail ou quoi que ce soit. Mais à ma grande surprise, ça a marché plutôt rapidement et la communauté a grandi assez rapidement et j'ai commencé aussi à évoluer dans mes montages, dans mon contenu. Ça a commencé à me plaire de plus en plus. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter mes études avant la fin de l'année. Donc j'ai arrêté mes études, je pense, en mai ou en juin. Donc ça finissait, enfin j'ai vraiment arrêté peut-être un mois avant la fin. J'aurais pu au moins aller jusqu'à la fin de la première année, mais je me sentais vraiment pas bien à Montpellier. J'étais pas dans mon élément et j'étais seule dans un petit appartement qui était assez sombre. Et juste, enfin c'était pas bon pour mon mental, j'étais vraiment pas bien et j'avais pas envie de retomber dans une dépression, dans des troubles alimentaires. Donc j'ai décidé de sortir de ça et de retourner chez mes parents. L'été, enfin j'ai passé un mois sans faire grand-chose. Et à cette époque, j'étais encore avec Robin, du coup mon copain avec qui j'étais pendant 4 ans avant de déménager à Bali. Et il travaillait dans une agence de communication depuis un moment. Donc moi, je connaissais son patron parce que je gardais ses enfants de temps en temps, donc je faisais du babysitting pour eux. Et un jour comme ça, j'ai eu vraiment énormément de chance. Le patron de Robin lui a dit, j'ai vu que Davy faisait des vidéos sur YouTube, j'ai vu qu'elle était pas mal sur Instagram, etc. Je vais avoir besoin d'une community manager qui s'occupe des réseaux sociaux pour les entreprises et qui fasse des vidéos et des photos. Donc si tu veux lui en parler, je peux la recevoir dans mon bureau, on peut avoir un entretien et peut-être pourquoi pas l'engager à mi-temps et voir ce qu'on peut faire avec elle. Donc moi, je venais à peine d'arrêter mes études, j'étais un petit peu, enfin je savais pas ce que j'allais faire, j'étais chez mes parents et je gagnais pas vraiment d'argent parce que les réseaux sociaux c'était pas encore, ça me rapportait rien. Et donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai eu rendez-vous avec le patron de Robin qui s'est super bien passé, j'étais hyper motivée. Alors je lui ai clairement dit que j'avais aucune expérience, que j'avais que mon bac, mais que j'étais vraiment prête à me donner à fond et à apprendre et que j'étais vraiment motivée. Donc il m'a donné ma chance et je le remercierai jamais assez parce que j'ai appris énormément dans cette entreprise. Je travaillais à mi-temps, ça veut dire qu'en fait je travaillais tous les matins et les après-midi, j'avais les après-midi libres. Donc c'était génial parce qu'en fait finalement ça me permettait de gagner de l'argent et j'étais encore chez mes parents. Donc j'avais pas de loyer à payer ni rien. Et à côté de ça, l'après-midi, je pouvais bosser sur YouTube, Instagram, etc. et continuer à développer du coup tout ça à côté. Donc j'ai fait les choses intelligemment et j'ai essayé de mettre le maximum d'argent de côté. Donc en fait, chaque mois, à chaque fois que j'avais mon salaire de l'entreprise, je mettais le maximum de côté. Je crois que c'était environ 600 euros par mois, ce qui est pas énorme, mais quand on vit chez ses parents et qu'on n'a rien à payer, si on est intelligent et qu'on fait pas trop de shopping, pas trop de sorties, etc. Au final, au fur et à mesure, t'accumules et ça te fait des petites économies sur le côté. Et j'ai aussi appris énormément de choses dans cette entreprise. J'ai appris à parler aux clients, à me présenter. J'ai appris à utiliser Illustrator, Photoshop, Lightroom. Je me suis améliorée en montage vidéo. J'ai bougé, j'ai été à Paris. Enfin voilà, on a fait énormément, énormément de choses. Je suis restée environ 8 mois, je crois, dans cette entreprise, si je dis pas de bêtises. Et à la fin de l'année, je pense que c'était vers novembre, octobre-novembre, donc c'était il y a un an de ça, avec Robin, on a décidé de s'installer ensemble, donc de louer une maison. Ce qui est cool, c'est que dans le sud de la France, en tout cas dans la région où on était, les loyers sont pas extrêmement chers. Enfin, en tout cas, le marché de l'immobilier, les loyers sont pas extrêmement chers. Donc, on a pu louer une maison à deux pour pas grand-chose au final. Et donc, du coup, c'était génial. D'ailleurs, vous avez plein de vlogs sur ma chaîne YouTube si vous voulez un peu remonter et si vous êtes curieux. Il y a tout. Enfin, il y a l'emménagement, quand on a repeint les murs de la maison, etc. C'est des souvenirs que j'oublierai. Enfin, c'est des choses que j'oublierai jamais parce que c'est des moments qui ont marqué ma vie et bref, enfin, c'était rien que d'y penser, ça me donne le sourire. Donc voilà, on s'est installés ensemble et Robin a finalement décidé de lancer son entreprise, de quitter en fait l'agence de communication et de lancer son entreprise. Ce qui fait que j'ai aussi décidé, enfin ça s'est fait un peu naturellement, de quitter l'entreprise parce que de toute façon Robin partait et que bref. Donc au final ça s'est fait comme ça, j'ai arrêté de travailler dans cette agence Entre-temps, en fait, YouTube avait énormément évolué, Instagram avait énormément évolué, j'ai commencé à collaborer avec des marques. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas trop comment ça marche sur Instagram, c'est assez simple. En fait, les marques vous contactent par mail et ils vous proposent des collaborations. Donc ça peut être par exemple vous payez pour une story, ou vous payez pour un post, ou alors par exemple comme Ocean's Apart avec qui je travaille depuis pratiquement 8 mois, où en fait ils me payent un certain montant tous les mois pour un certain nombre de stories et un certain nombre de posts. Alors moi je ne bosse pas avec énormément de marques parce que c'est hyper important pour moi de vraiment promouvoir des marques que j'aime, que j'utilise, parce que j'ai pas envie que ma page se transforme en catalogue avec tout et n'importe quoi. Donc je travaille pour l'instant avec deux marques, une marque qui arrive très bientôt que vous n'avez pas encore vue sur mon Instagram mais qui est Bulk Powder, donc je vais commencer à travailler avec eux. J'utilise leurs produits depuis super longtemps donc je suis hyper contente et du coup Ocean's Apart. Donc ça déjà c'est un premier revenu, c'est pas énorme, j'ai pas envie de donner de chiffres parce que c'est juste personnel, c'est pas des chiffres énormes parce que j'ai pas une audience énorme mais ça reste quand même des revenus donc c'est cool. Ensuite, YouTube aussi s'est vachement développé. J'ai pu commencer à monétiser ma chaîne. Donc ça, pareil. Donc j'ai des revenus tous les mois. mois de YouTube, en fonction aussi des vues que j'ai. Donc au final, c'est jamais stable. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est jamais, jamais stable YouTube. Et aussi un truc hyper important que j'ai oublié de mentionner, c'est que quand je travaillais chez Audicom, donc l'ancienne boîte chez laquelle j'étais, je développais YouTube et Instagram l'après-midi, mais j'ai aussi développé sur le côté mon premier gros projet et ma première entreprise, Boa. Donc c'est mes gourdes en verre éco-friendly que vous pouvez voir aussi sur mon Instagram. Ça, c'est un projet que j'avais depuis hyper longtemps, depuis en fait mon premier voyage au Cambodge, qui m'a fait réaliser à quel point c'était un fléau et à quel point ben, il fallait qu'on fasse quelque chose avec ces bouteilles en plastique et la pollution en général. Ce qui m'a vraiment permis de développer ce projet, on va pas se mentir, c'est ma mère, parce que ma mère, pas forcément financièrement, parce que j'ai financé la moitié pratiquement toute seule et j'ai aussi fait un crédit, mais ma mère m'a énormément aidée avec la logistique parce que bah, elle a créé son entreprise aussi quand elle était vachement jeune, donc elle m'a aidée avec la logistique, etc. Donc ça sera un podcast que je ferai, je pense, totalement à part avec peut-être ma maman comme invitée parce que c'est assez long à expliquer et que bah, tout le monde n'est pas forcément intéressé par comment créer son entreprise, mais je pourrais vous faire ça aussi. En tout cas, si vous avez pour projet de créer une entreprise ou de lancer un projet, je vous conseille vraiment de vous entourer de personnes qui ont de l'expérience et qui ont déjà une entreprise ou qui sont chefs d'entreprise ou qui ont développé quelque chose par eux-mêmes. C'est hyper important en fait de prendre le maximum de connaissances et faut pas avoir peur en fait d'aller parler aux gens et de demander de l'aide parce que faire les choses par soi-même quand on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, c'est pas forcément une bonne idée. Vous pouvez vous mettre dans des situations qui sont pas forcément idéales financièrement. Donc voilà, ma mère m'a énormément aidée, donc j'ai aussi développé Boa qui a été lancé en décembre dernier, donc ça va faire bientôt un an, j'arrive pas à le croire, mais ouais. Et donc du coup, Boa aussi, c'est quelque chose qui marche pas mal. Alors à ma grande surprise, parce que je fais pas énormément de promotion, d'ailleurs là je suis en train de bosser dessus parce que je vais vraiment me concentrer sur Boa parce que c'est vraiment... Je disais avant que ça coupe que Boa, je voulais vraiment me concentrer dessus parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur et qui a beaucoup plus de choses derrière. J'ai vraiment pour but d'aller construire, en fait, de financer des pompes d'eau potable au Cambodge parce qu'en fait, 50 centimes par bouteille vendue est reversé à une association. Enfin, en tout cas, on économise pour pouvoir reverser le gros chèque et pour pouvoir financer une pompe d'eau potable pour 50 personnes au Cambodge et peut-être en financer plus. Mais en tout cas, voilà, donc c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. J'ai énormément de produits en tête que je veux faire et c'est aussi un revenu plus stable que juste moi, mon image, parce que vous l'avez vu d'ailleurs pas mal sur YouTube et Instagram en ce moment, j'ai eu un petit peu un mental breakdown. Enfin, je me sentais vraiment pas forcément en phase avec ce que je faisais. Et ça montre aussi à quel point en fait Instagram c'est instable et à quel point c'est ça peut être vraiment dur en fait mentalement parce que. En fait, c'est tout un travail d'image. C'est-à-dire que ton outil de travail principal, c'est toi et ton image. Donc, quand tu te sens pas bien ou quand t'es pas bien, eh ben, tu peux pas vraiment travailler normalement parce qu'en fait, même si tu te sens pas bien, tu dois quand même prendre ta caméra, te filmer tous les jours, prendre des photos de toi. Et il y a des moments en fait où tu t'as juste pas envie de te regarder dans le miroir. Et ça, c'est un truc dont les gens ne se rendent pas forcément compte à quel point en fait Instagram et YouTube. Alors oui, je suis pas du tout en train de dire, je suis pas en train de me plaindre. C'est un travail génial et j'ai énormément de chance de pouvoir en vivre aujourd'hui. Ça reste quand même pas facile au quotidien parce qu'en fait, ben, tous les gens qui te suivent, ils se sentent investis dans ta vie, ils donnent leur opinion H24 et tu te sens juger sans forcément le vouloir, même si j'ai une communauté en or et que vraiment, enfin, j'ai énormément de chance d'avoir une communauté aussi bienveillante. Mais même ça, en fait, tu te sens toujours obligé de rendre des comptes aux gens, d'expliquer pourquoi tu te sens comme ça. Et voilà, donc YouTube, c'est toujours c'est une passion, donc je continuerai toujours à le faire. Et puis j'adore vous partager des vidéos, puis en ce moment, ça va beaucoup mieux. Mais je veux vraiment me concentrer sur mon projet à côté où bah, c'est pas forcément mon image qui est mise en avant, comme Boa. Et c'est plus stable et je sais que c'est quelque chose que je pourrais faire. Sur le long terme et qui sera toujours, ben, j'ai pas besoin de prendre la caméra, de me prendre en photo pour que ça marche. Voilà ce que je voulais dire, même si YouTube, ça se résume pas à ça, mais c'est juste pour vous faire une grosse image en fait et que vous compreniez pourquoi c'est important de ben, d'avoir différentes sources de revenus et d'avoir quelque chose de plus stable parce que ben, YouTube et Instagram, c'est génial, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer et on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir un scandale sur toi, tu peux te faire supprimer ta chaîne YouTube, supprimer ton compte Instagram. Je touche du bois parce que je veux pas manifester de choses négatives. Mais voilà. Du coup, je crois que j'ai résumé un petit peu toutes mes sources de revenus. Donc Instagram, YouTube, mes collaborations avec les marques et Boa. Ce qui est déjà pas mal pour pour l'instant, mais c'est aussi ce qui m'a permis et ce qui m'a donné la confiance d'aller m'installer à Bali. Alors pourquoi Bali? Parce que bah déjà la vie est moins chère qu'en France, donc je savais que je ne me mettais pas vraiment en danger et que j'allais pouvoir vivre correctement avec mes revenus, qui sont encore une fois, je tiens à préciser, pas énormes, hein. Mais j'arrive à vivre ici parce que bah du coup la vie et le train de vie que je mène me va parfaitement. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément besoin d'énormément de choses pour être heureuse. Je fais pas du shopping tous les jours, je me contente du nécessaire et ça me va très bien comme ça, en tout cas pour l'instant. Et aussi le fait d'être à Bali et de dépenser, bah, de pas dépenser énormément de sous tous les mois, ça me permet de faire des économies à côté et d'économiser pour mes futurs voyages et pour mes futurs projets. Et donc du coup, ouais, vous savez que j'ai décidé de déménager il y a 3 mois de ça. Et pour l'instant, bah, tout va très bien et tout marche très bien. Et tout ça pour en venir à la réponse finale de vous, comment vous pouvez faire pour faire la même chose que moi et pour voyager et pour vous installer à l'étranger. Donc moi, je vois 3 solutions. La première, évidemment, c'est celle que j'ai choisi d'appliquer pour moi et que je viens de vous expliquer, c'est développer votre business en ligne, développer plusieurs sources de revenus et s'assurer d'avoir bah, une situation financière plutôt stable pour être sûr que vous n'allez pas vous retrouver sans rien à l'autre bout de la terre. Et ça prend du temps, c'est-à-dire que ça n'est pas fait du jour au lendemain, je ne serai pas partie comme ça. Un mois après avoir arrêté mes études, c'est pas juste bah tiens, j'arrête mes études et je pars à l'autre bout du monde. Il faut se donner les moyens, il faut se trouver des petits jobs à côté. Dès que vous pouvez, je sais pas, moi-même, j'ai été aussi caissière à Noël, j'ai été caissière dans un magasin de bricolage aussi, je vous en ai pas parlé, mais c'est aussi des jobs que j'ai fait, j'ai mis de l'argent de côté. Donc en fait, il va falloir juste que vous ayez un peu de patience et que bah, vous fassiez le maximum pour mettre de l'argent de côté et développer votre business en ligne. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Moi, pour que YouTube marche vraiment, ça m'a pris 1 an vraiment pour que ça commence à marcher. Et encore, c'est que le début parce que bah, ma communauté reste petite. Je suis pas en train de dire que ça me va pas parce que ça me va très très bien comme ça et que je suis très heureuse. Mais voilà, ma communauté est petite, mais ça montre que même avec une petite communauté, bah, tu peux quand même en vivre. Donc voilà, patience, passion, organisation et travail parce que rien vient sans rien et que si tu restes chez toi à rien faire et à rêver, il n'y a rien qui va se passer. Et si tu as une idée en tête et que tu veux aller au bout, il faut que tu ailles au bout et de toute façon il y aura des obstacles. Alors ça peut paraître très cheesy et très cliché, mais c'est la vérité, il va y avoir des obstacles. Il va y avoir des moments où tu vas stagner, il va y avoir des moments où tu vas douter. Mais si vraiment tu veux atteindre ton but final et atteindre ben, ton rêve ou en tout cas continuer sur le chemin qui va te mener vers ton rêve final, il va falloir continuer et t'accrocher. Même si c'est pas simple tous les jours, tu restes la seule personne qui a le pouvoir sur ta vie et tu es la seule en fait à pouvoir faire se réaliser les choses. J'allais le dire en anglais. Make things happen, but voilà, vous avez compris. En ce moment, je fais que parler anglais H24 parce que je vis avec Jackson, donc c'est juste une misère parce que quand j'essaie de parler français, à chaque fois, j'ai envie de vous dire des trucs qu'en anglais et j'ai l'impression d'être Afida Turner. Je suis désolée pour ça, mais bref, du coup, donc ça serait la première solution. La deuxième solution, c'est de voyager temporairement, c'est-à-dire qu'en fait, vous bossez pour un certain nombre de temps, donc vous trouvez un job à plein temps, vous mettez de l'argent de côté pendant un certain moment et vous vous fixez par exemple 1 an pour voyager ou 6 mois pour voyager et donc vous faites un budget pour 6 mois et vous voyagez complètement pleinement, ça veut dire que vous ne travaillez pas. Par exemple, moi à Bali ici, je suis en voyage mais je travaille tous les jours donc j'ai pas forcément le temps d'aller explorer. J'ai peut-être été explorer, je sais pas moi, 2 fois en 3 mois, j'étais 2 fois sur les îles. J'étais une fois à Luatu, une fois à Ubud, mais sinon je passe la majorité de mon temps dans ma petite routine. Je vais déjeuner le matin, ensuite petit café, je travaille sur mon ordinateur, enfin bref, je passe clairement la journée à bosser et j'ai pas énormément de temps libre pour moi. Alors oui, je préfère le cadre à Bali 1000 fois qu'en France, mais ça reste quand même pas des vacances. Alors que du coup, si vous mettez un gros budget de côté et que vous partez voyager, là, vous pouvez vraiment bah, profiter pleinement et prendre une année sabbatique ou 6 mois sabbatiques et juste bah, voyager et prendre le temps pour explorer, découvrir, faire du contenu peut-être pour bah, créer votre plateforme ou j'en sais rien. Mais c'est aussi une option et il y a énormément de gens qui le font. Ça veut dire que bah, il y a des gens qui travaillent pendant 1 an, qui voyagent pendant 1 an, qui travaillent pendant 1 an. Tout est possible si vous trouvez un travail assez flexible qui vous convient et qui vous permet en fait de travailler et d'arrêter, de reprendre. Par exemple, je pense à tout ce qui est dans le web, donc web designer, créateur de site, créateur de contenu en général, ou je pense qu'il y a plein de jobs en fait où on peut faire ça. Moi, je parle en tant qu'expérience parce que du coup, j'étais community manager dans une entreprise et je sais que ça, c'est un truc que si demain je veux reprendre, je peux très bien trouver une autre boîte, déposer mon CV et j'ai de l'expérience et je sais que bah, j'ai aussi, comment dire, des connaissances et que je suis capable de le faire. Donc, ça aussi, c'est une sécurité que j'ai en tête et que j'ai derrière moi, c'est que je sais que si vraiment je suis en grosse galère ici et qu'il se passe quelque chose, encore une fois, je touche du bois, je peux revenir en France et retourner, te retrouver un travail pendant 6 mois, travailler dur et après revoyager. Donc, ça, c'est une option que vous avez aussi. Et ensuite, la dernière option que j'aurai en tête. Et du coup, la troisième option que vous avez, c'est trouver un travail à l'étranger ou faire un stage à l'étranger. Alors, je sais qu'ici à Bali, la plupart des Français que j'ai rencontrés, d'ailleurs, je pense à Pauline, je pense à Marie-Lou, à Marine, enfin voilà, toutes les filles extraordinaires que j'ai rencontrées ici, elles étaient toutes en stage. Donc, en fait, elles sont en école de commerce, en école de marketing. Et dans des écoles comme ça, vous avez souvent à la fin des études, en fait, 6 mois, 5 mois de stage à l'étranger. Donc, ça reste une super option pour voyager. Et si j'avais pu le faire, si j'avais pu aller jusqu'au bout de mes études, je l'aurais fait aussi. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte et je trouve ça vraiment génial. Alors encore une fois, ça reste un stage, donc vous bossez, vous n'êtes pas en vacances. Donc si votre but, c'est de voyager et d'être pépère tranquille, dans ces cas-là, c'est peut-être mieux d'économiser et de partir. Mais du coup, voilà, les stages, c'est une super option. Ou sinon, ben voilà, trouver un travail à l'étranger. Alors ça encore, c'est la plus difficile des options. C'est un truc que moi, personnellement, je peux pas, enfin, je peux pas vous donner trop d'informations dessus parce que c'est pas quelque chose que j'ai expériencé, est-ce qu'on peut le dire ça? Enfin, j'ai pas d'expérience là-dedans, quoi. Je sais que c'est assez compliqué d'avoir un visa travail ici à Bali, en Indonésie. Il y a pas mal d'expats qui arrivent à l'avoir quand même, qui travaillent dans des beach clubs, qui travaillent dans des agences de com ici ou dans des agences de voyage, etc. Alors peut-être que ça peut être intéressant que je rencontre quelqu'un qui a un visa travail et que je l'interviewe et que je vous en parle un peu ici et aussi pour en apprendre un peu plus moi. Mais je sais que c'est aussi une option de trouver un travail à l'étranger. Je sais que ça se fait beaucoup au Canada. Où est-ce que ça se fait beaucoup aussi en Inde, je crois que ça se fait beaucoup. En Amérique, c'est le plus compliqué. Vous savez qu'avoir la green card, c'est un petit peu le Graal, donc c'est pas un truc que je vous conseille. Mais renseignez-vous sur ça parce que si vous avez pour projet de faire un travail qui vous permet de travailler à l'étranger, qui est pas en ligne, hein, quand je dis travailler à l'étranger, c'est parce que moi je travaille en ligne, donc je travaille pas à l'étranger, je travaille pour la France en ligne. Mais je suis installée à l'étranger, ce qui est complètement différent parce qu'en fait, je ne gagne pas de l'argent du pays, donc je suis autorisée à être dans le pays parce que ben, je ne gagne pas de l'argent indonésien. Si vous avez compris, je sais que c'est un petit peu le bazar dans ce que je dis. Mais bref, du coup, c'est aussi une option de trouver un travail à l'étranger je pense que rien n'est impossible parce qu'il y a énormément de gens qui le font. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je parle pas vraiment en connaissance de cause sur ce sujet-là, mais je sais que c'est aussi un truc à prendre en compte. Bon, ça fait déjà longtemps que je parle, je commence à avoir de la salive plein la bouche, à avoir la gorge râpeuse, donc on va arrêter ici. Je vais aller essayer de voir si mon internet marche et voilà, pour finir ce podcast, je dirais que tout part de la motivation et de ce que vous avez en tête et de la consistance et juste de pas vous laisser avoir par ce sentiment de mais c'est pas possible, mais c'est trop beau pour être vrai, ou alors des gens autour de vous qui vont vous ben, qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous dire que c'est pas possible, parce qu'au final si vous savez dans votre tête que c'est possible et que vous allez le faire et que ça va marcher, vous êtes capable de le faire. Il y a aucune raison, ça prend du temps, c'est pas des choses qui sont faciles, rien que déjà de prendre la décision de partir à l'étranger, de quitter sa famille, c'est quelque chose de énorme et moi ça a vraiment été quelque chose de très dur parce que je suis très proche de ma famille et je vais pas trop en parler sinon je vais commencer à pleurer. Donc on va arrêter, mais voilà, vous êtes capable de le faire. Il faut que vous ayez un plan en tête, un plan d'attaque, pas se précipiter et vraiment bien choisir votre destination. Si vous n'avez pas énormément de sous, si vous n'avez pas un budget de ouf, n'allez pas par exemple à New York ou en Amérique parce que ben, les budgets sont énormes, ou pareil en Australie. Moi je suis venue en Asie stratégiquement parce que ben, déjà j'aime Bali, mais que ben, du coup la vie est pas extrêmement chère, donc je sais que je peux vivre ici, mais je vais pas du jour au lendemain aller m'installer en Australie parce que j'ai juste pas les moyens. Donc renseignez-vous bien sur la destination où vous allez aller, c'est hyper important. J'en ai pas énormément parlé dans ce podcast, mais c'est hyper important de savoir où vous mettez les pieds, de partir en vacances d'abord là-bas. Par exemple, Bali, je suis venue un mois avant de prendre la décision de m'installer ici parce que je savais du coup bah, à quoi m'attendre, parce que c'est aussi quelque chose qui est important. Donc si vous avez la possibilité, allez-y. Sinon, bah, renseignez-vous à fond, lisez des guides, allez sur des blogs, vraiment. Enfin, faites-vous un plan détaillé en tête avant de vous lancer. Et voilà, vous allez y arriver, vous allez le faire si vous en avez vraiment envie, il n'y a aucune raison. Bon, Allez, j'arrête de parler, je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie. Suivez-moi sur Instagram, des vibrations. Suivez-moi sur YouTube, des vibrations. Et partagez le podcast si vous l'avez aimé, parce que du coup, ça m'aide énormément et ça me motive à vous en enregistrer plus. Et voilà, bon, je vous fais des bisous, je vous aime très fort et on se revoit dans le prochain podcast.